Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
Lundi 26 septembre,
l'info sur RMC.
Il est 7h, excellent réveil à vous tous qui nous écoutez sur RMC, qui nous regardez sur RMC Story. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'extrême droite s'installe en Italie, victoire nette du parti de l'ultra-conservatrice Giorgia Meloni aux élections législatives. Romain Cluzel nous attend en direct à Rome. Semaine à risque pour Elisabeth Borne, budget, réforme des retraites, la première ministre et l'invité exceptionnel d'RMC ce matin. Le foot, les Bleus inquiètent hier face au Danemark, défaite 2-0 à deux mois du Qatar.
En Italie, Giorgia Meloni a remporté son pari. L'extrême droite arrive au pouvoir.
Un parti issu du fascisme prêt à gouverner. Ça n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale en Italie. Giorgia Meloni a pris la parole cette nuit pour revendiquer sa victoire et tenter de rassurer aussi.
Il est important de comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unit plutôt que ce qui le divise. Quand cette nuit sera terminée, nous devons impérativement nous rappeler que cette élection n'est pas un point final. Nous ne sommes qu'au point de départ. C'est dès demain que nous devons prouver notre valeur.
On retrouve notre envoyé spécial RMC à Rome, Romain Cluzel en direct. Romain, la coalition d'extrême droite s'assure une majorité absolue au Parlement.
Oui, c'est une victoire assez nette pour Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia qui remporte plus d'un quart des voix, et en ajoutant les deux autres membres de sa coalition, on arrive à 44% des voix, ce qui est suffisant pour obtenir la majorité absolue au Parlement. Vraisemblablement, le gouvernement italien sera donc dirigé pour la première fois par une femme, et pour la première fois, un parti issu du néofascisme remporte l'élection. Giorgia Meloni a passé une grande partie de la campagne à tenter de rassurer malgré sa volonté de renégocier les accords européens ou encore de restreindre l'accès à l'avortement.
Romain Cluzel, une autre question. Giorgia Meloni se dit prête à prendre la tête du gouvernement. On l'a entendu il y a un instant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors, tout va s'enclencher dans deux semaines, le 13 octobre pour être précis. Ce jour-là, le nouveau Sénat et la nouvelle Chambre des députés vont se réunir pour la première fois. Là, le président de la République italien Sergio Mattarella.
Romain Cluzel en Italie pour couvrir ces élections pour RMC. Petit problème de réseau. Romain Cluzel depuis l'Italie. Merci beaucoup. On en vient à la révolte des femmes en Iran. 10 jours de lutte, 41 morts. Nous n'aurons aucune indulgence avec les manifestants, disent les autorités. À Paris, la police a dispersé les manifestants anti-répression. Ils étaient un millier environ pour les empêcher d'atteindre l'ambassade d'Iran. Un rendez-vous à ne pas manquer ce matin sur RMC. Elisabeth Borne est l'invitée exceptionnelle d'Apolline de Malherbe. Dès 8h15, la première ministre lance une semaine explosive pour le gouvernement. La réforme des retraites sera bien sûr au cœur de cette interview. Dialogue ou passage en force, c'est le dilemme. L'exécutif reçoit ministre et chef de la majorité cette semaine. La CGT, de son côté, appelle à manifester ce jeudi. Êtes-vous prêt à descendre dans la rue d'ailleurs ? Mathieu Limongi vous a posé la question.
Beaucoup sont déjà prêts à se mobiliser, comme Paco, voilà 35 ans qu'il est coursier à Paris.
Moi, je serai dans la rue, ouais, ça c'est clair. Je suis dans un métier assez compliqué, c'est trop dur d'aller jusqu'à 65, c'est très compliqué.
Même sentiment chez cet étudiant.
Si c'est un métier qui vraiment ne t'intéresse pas forcément, ou tu travailles juste pour avoir un salaire, ça coince, le passage en force pose problème.
Il y a ses habitués, des cortèges, et puis ceux qui vont les découvrir prochainement. Nadine pourrait bien aller manifester pour la toute première fois.
Ça pourrait commencer, pourquoi pas, se mobiliser. Moi, je suis auxiliaire depuis donc 42 ans auprès des enfants, mal au dos, mal partout, on est fatigué quoi.
Comme Nadine, les Français descendront-ils en masse dans la rue ? Un scénario plus qu'envisageable pour l'historien Sylvain Boulouk, spécialiste des mouvements sociaux.
On pourrait avoir un mouvement social de beaucoup plus grande ampleur que celui qui a existé en 2019. Ça peut être un peu la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, même à moins qu'une explosion des prix, la conjonction des deux peut rendre la situation explosive.
Autre scénario évoqué par l'historien, celui d'une mobilisation moins moins importante. À court terme, les Français pourraient bien se préoccuper avant tout de leur pouvoir d'achat.
Elisabeth Borne qui sera donc mon invitée dès 8h15 sur RMC, mais surtout votre invitée, vous venez l'interpeller très directement, vous nous appelez au 3216 avec toutes vos questions, vos témoignages sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, les salaires, les logements, la sécurité, l'écologie, l'énergie, toutes vos questions à Elisabeth Borne, vous nous appelez dès à présent au 3216.
Et juste après l'interview, Elisabeth Borne qui se rendra en Conseil des ministres, ce qui a lieu ce lundi avec la présentation du projet de loi de finances et du budget de la sécurité sociale. Parmi les propositions choc pour faire des économies, celle-ci, réduire les faux arrêts maladies, ont quand même coûté 100 millions d'euros à la Sécu. Du coup, il ne serait plus possible de se les faire prescrire en téléconsultation par un docteur qui n'est pas votre médecin traitant, si vous suivez bien. Pour Jérôme Marty, en tout cas, président du syndicat L'Union française pour une médecine libre, cette mesure pourrait poser problème, notamment dans les déserts médicaux.
On n'effacera pas d'un trait de plume la difficulté des Français à trouver un rendez-vous auprès d'un médecin. On sait qu'il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. On sait que les médecins traitants sont sous une demande de soins qui est extrêmement importante et qui fait que souvent, ils ne sont pas en capacité de répondre en temps et en heure au patient qui veut un arrêt de travail. Alors ça, on ne peut pas l'écarter comme ça. Il va falloir que le gouvernement, en urgence, rende plus attractive les professions de la médecine libérale pour qu'il y ait plus de médecins qui s'installent.
On vous en parlait sur RMC. Ils ont mis leur menace à exécution. Ces hackers qui avaient lancé un ultimatum à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Ça y est, ils ont diffusé des données personnelles sur le Darknet. Les serveurs avaient été piratés en août. On parle de milliers de documents. L'utilisation de ces données forcément inquiète Damien Bancal, journaliste spécialiste dans la cyberdéfense.
Il peut y avoir des numéros de téléphone, il peut y avoir des mails, il peut y avoir des données sensibles qui peuvent permettre un cyberespionnage. Eh bien, on a plein de petits pirates qui viennent se servir dans les données diffusées. Alors, on aura un pirate qui va s'intéresser qu'au téléphone portable pour lancer des arnaques. On va prendre l'exemple au CPF. On va avoir des pirates informatiques spécialisés qu'aux adresses mail. Et donc, du coup, ils vont pouvoir lancer des phishing, des hameçonnages aux couleurs de l'assurance maladie. On va avoir des pirates informatiques simplement intéressés pour le cyberespionnage parce que, tiens, dedans, il y a un patron d'entreprise, il y a un politique.
Et le procès de Mies va-t-il pouvoir reprendre aujourd'hui? La conductrice du bus a fait un infarctus en pleine audience. Elle est hospitalisée en soins intensifs depuis samedi, victime selon son avocat du syndrome du cœur brisé.
7h07, le foot, la France a sombré face au Danemark.
Hier à Copenhague, en Ligue des Nations, le score 2-0. Dernière répétition avant la Coupe du Monde qui commence le 20 novembre au Qatar. Et la preuve aussi que sans ses cadres, pour la plupart blessés, les Bleus galèrent, Fabrice Hawkins.
Une équipe inexpérimentée, 12 sélections seulement avant le match pour les trois défenseurs Saliba, Upamecano et Badiachil, et surtout un manque d'impact constaté par le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni.
On a été bousculé et on a causé des deux buts qui nous ont un peu mis la tête dans le seau. Après, c'est à nous de mieux faire. Il y a eu des intentions, après on n'a pas été bons tout simplement, je pense qu'il n'y a pas d'excuse.
Au milieu justement, Kamavinga qui fêtait sa quatrième sélection a beaucoup souffert. Ce n'était pas le seul d'après Didier Deschamps.
Kama n'était pas dans les meilleures dispositions, ça peut arriver aussi. Ça n'a pas été le seul non plus. Ça lui servira comme ça servira à d'autres pour le futur, bien évidemment.
Le sélectionneur aimerait voir l'infirmerie se vider pour retrouver une équipe compétitive.
Aujourd'hui, la situation, je ne vais pas prendre d'excuses, évidemment, qu'il y a des joueurs de qualité. L'important, c'est de pouvoir récupérer toutes nos forces pour dans deux mois.
L'équipe de France aura l'occasion de prendre sa revanche sur le Danemark le 26 novembre prochain. Cette fois, ce sera la Coupe du Monde.
Et en rugby, hier soir, La Rochelle s'est inclinée face à Clermont en clôture de la quatrième journée de Top 14. Je voulais vous parler aussi du grand retour de Rihanna sur scène et pas n'importe où sur la scène du Super Bowl. Incontournable concert de la mi-temps, ça sera le 12 février 2023. C'est quand même l'événement télévisé le plus regardé aux États-Unis. Elle a bien choisi Rihanna.
Et ça faisait un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu, non?
Ben oui, parce qu'elle a lancé sa marque.
Ah, ben oui, bien sûr, petit congé mat. Ouais, on est bien content de la retrouver,
Rihanna. Et on l'embrasse, son bébé. Parce qu'elle regarde Apolline.
Mais on l'embrasse très fort.
Salut Rihanna, hello, nice to see you again in February. Donc,
c'était le journal de Marguerite Dumont, il est 7h09 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Élise Dangean. Bonjour Élise. Vous nous faites des révélations ce matin sur les implants Essure. Mais d'abord, de quoi est-ce qu'on parle exactement ?
Essure, c'est un moyen de contraception définitive, un petit ressort implanté dans les trompes de Fallope, porté par près de 200 000 femmes en France suite à une déferlante de signalements en 2017. L'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, demande l'arrêt des implantations. En 2018, le laboratoire Bayer cesse de commercialiser le dispositif partout dans le monde. Mais 4 ans plus tard, des femmes continuent de découvrir ces effets secondaires. Douleurs abdominales, fatigue chronique, maux de tête. Ce n'est qu'en début d'année qu'Irène a fait le rapprochement entre les douleurs qu'elle endure depuis 10 ans et son implant.
Je me suis rendu compte au fil du temps que moi aussi j'étais victime de ça et que j'avais implanté une bombe dans mon corps. Sauf que là, ce qui est insidieux et ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'ils ne fassent pas une information parce que là, ça nous rabote la vie. Et en plus... c'est quelque chose qu'on a posé en nous parce qu'on aimait la vie, parce qu'on avait envie d'en jouir avec un dispositif de contraception qui nous permettait d'avoir une sexualité épanouie. Et pof, comme toutes les autres violences gynécologiques, ça nous rabote la vie, quoi.
Alors aujourd'hui, Irène prévoit de se faire retirer son implant. 30 000 femmes en France l'ont déjà fait et elle envisage aussi d'engager des poursuites contre le laboratoire Bayer.
Et ce serait pas la première fois.
Oui, une action collective a même été lancée par l'association Résiste qui nous a écrit et qui regroupe les femmes victimes. Mais la justice n'a pas suivi. Comme souvent dans ce type de dossier, il est très difficile de prouver le lien entre l'implant et les effets secondaires. Pas de quoi décourager les femmes de se battre. C'est une information RMC que l'on vous révèle ce matin. Le laboratoire Bayer sera jugé par le tribunal judiciaire de Paris dans 2 semaines. 132 plaignantes réclament la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété. Elles sont défendues par maître Charles-Joseph Houdin.
En réalité, cette procédure vise à démontrer que ces femmes ont été exposées à un risque, qu'il se soit traduit ou non par des effets indésirables. Il a au minimum engendré une inquiétude, une crainte, une peur de développer des effets indésirables. De toute façon, toutes ces procédures visent à obtenir de la part du laboratoire, mais aussi des autorités publiques, une reconnaissance du problème lié au dispositif et bien évidemment d'une meilleure information.
Et les pouvoirs publics dans tout ça, ils y disent quoi ?
Alors, ce que réclament ces femmes qui nous ont alertées, c'est d'être mieux informées et mieux prises en charge. Nous avons contacté le ministère de la Santé qui s'était engagé en septembre 2020 à lancer un protocole de recherche. Nous avons découvert que l'étude n'a toujours pas débuté. Elle ne démarrera pas avant l'année prochaine. Quant à Bayer, le laboratoire nous explique que le contraceptif a été retiré du marché pour des raisons commerciales et qu'il s'agit d'un dispositif sûr. Aux États-Unis, 39 000 patientes ont porté plainte contre Bayer, qui a signé un chèque d'$1,6 milliard en 2020 pour éviter la justice.
Merci Élise. Procès de Bayer, donc, qui doit s'ouvrir le 3 octobre prochain à Paris. Et c'est une information RMC. Il est 7h12.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, on part à Nantes où les serveurs de 2 restaurants du centre-ville ont désormais des bombes lacrymogènes à la ceinture. Pourquoi ? Les explications de la patronne de ces 2 établissements, c'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC, on part à Nantes.
Le témoin RMC.
Avec le témoin RMC ce matin, c'est vous, Olivia Delésigné, bonjour. Êtes restauratrice à Nantes et plus qu'un témoignage, c'est un véritable coup de gueule que vous passez ce matin. Vous êtes propriétaire de 2 restaurants dans le centre-ville et vous expliquez que vous êtes désormais contrainte d'équiper vos serveurs de bombes lacrymogènes pour faire face à quoi ? À des agressions, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, depuis une dizaine d'années et plutôt 5 ans, vraiment, la ville est devenue un terrain de violence et d'agression en fait envers toutes sortes de populations, et y compris notre personnel. Mmh. Donc, j'ai mis en place une certaine chose, c'est-à-dire équiper tout mon personnel de bombes lacrymogènes, de faire des cours de self-défense et un petit porte-clé alarme qui fait 90 décibels de façon à alerter. Voilà, quand il rentre le soir après le service,
parce que cette situation, vous l'avez vécue vous-même. Alors Olivia, je précise que vous tenez des restaurants à Nantes depuis 2004, donc vous l'avez vu évoluer, vous la connaissez bien la ville, on peut le dire. Vous avez vu l'évolution et une forme de dégradation, mais ce que vous dites, c'est que depuis septembre, c'est quasi quotidien. Vous-même, vous en avez été victime.
Oui, parce qu'on a été victime en fait de 3 agressions en une semaine à partir du 13 septembre. Moi-même, personnellement, pour une soirée et pour le reste de mes employés les 2 autres jours dont j'étais présente le 3e jour également.
Et ça s'est manifesté comment? C'est quoi comme agression?
Eh ben, moi, je rentrais directement de mon restaurant en direction d'un parking public, hein, qui, ouais, où normalement il y a un agent de sécurité. Donc, je me suis fait coincer par un individu avec une patinette électrique.
Ouais.
Et du coup, j'ai été agressée verbalement. Donc, comme je savais qu'il y avait un agent de sécurité, ben j'étais assez forte. Sauf qu'arrivée devant la porte du parking, il y avait personne. Donc là, j'ai commencé à prendre conscience que ça aurait pu être très grave. Après, j'ai un certain âge et j'ai pas trop peur, donc ça va. Par contre, après, mes employés, donc le lendemain, c'est un de mes employés que j'avais embauché le matin, qui commençait à 10h. À 22h30, quand il est sorti, il s'est fait agresser par trois individus. Il a couru sur à peu près 500 mètres pour partir, pour s'enfuir. Donc là, il s'est fait une déchirure musculaire. Il n'est pas revenu travailler le lendemain. Il m'a carrément dit que ça ne servait à rien parce que la ville était pleine de violence et qu'il avait peur. Et il était tétanisé, c'est vrai. Et la troisième agression, c'est on a voulu aider des voisins qui se faisaient agressé par un individu en rentrant le soir après avoir mangé dans un restaurant. Et en s'interposant, l'individu s'est retourné contre nous, il a fait voler mes chaises et mes tables, et il est revenu deux fois de suite dans la même soirée, et le lendemain complètement à jeun, pour nous demander pourquoi on l'avait...
Et vous avez même, Olivia, des papas, des jeunes serveuses qui travaillent chez vous, qui vous ont demandé depuis cette année de les libérer plus tôt parce qu'ils craignent pour leur fille.
Ah oui, oui, j'ai un apprenti de 18 ans et une étudiante de 20 ans. Les deux papas m'ont demandé soit de les raccompagner, soit qu'eux viennent les chercher, ou en tout cas de les libérer.
Mais ça veut dire, Olivia, qu'en fait, vous vous débrouillez tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aux Nantais désormais d'assurer leur propre sécurité, quoi.
Alors, oui. Oui, parce que ça fait partie du paysage nantais, je pense, l'agression. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, voilà. Et qu'il y en a de moins en moins, alors que c'est pas vrai. Nous, on est sur le terrain, il y en a de plus en plus. Et j'ai beaucoup de témoignages de clientes qui me disent « Nous ne venons plus à Nantes, en centre-ville, parce qu'il y a des agressions. On a peur d'aller jusqu'au parking. » C'est le cas, hein, puisqu'on peut pas mettre nos voitures proches. C'est une ville qui devient de plus en plus piéton. C'est bien pour nous en journée, mais en nuit, c'est pas possible. C'est un terrain de jeu de violence. En tout cas, pour se diriger vers les parkings, pour nous travailler. Donc, nous travailler et nous les clients, en fait, aussi. Hein, parce que je suis cliente aussi d'autres restaurants. Et quand on sort le soir, on fait attention comment on s'habille. On fait attention comment on rentre, par quelle rue on passe. On n'est pas toute seule. Enfin, c'est...
On est obligé d'être aux aguets en permanence. Votre témoignage, Olivia de Ligné. Je vous avais appelé dès hier hein, pour que vous puissiez témoigner. J'avais lu votre témoignage dans Ouest France. Entre-temps, une autre information, tristement, vient corréler vos témoignages. Puisque ce matin, on apprend que dans la nuit de samedi à dimanche, une Nantaise a été violée à plusieurs reprises, que trois hommes ont été arrêtés, que ça s'est passé vraiment dans le centre-ville et que des appels à manifester qui auront lieu donc samedi, une manifestation de citoyens contre l'insécurité à Nantes et donc organisée par les habitants de Nantes. Il est 7h19 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
L'écho sur RMC, les tarifs des péages vont-ils fortement augmenter en février prochain? Emmanuel Le Chypre nous dira tout. Et puis, il pirate le 32-16 tous les matins à 7h20. Arnaud Demange nous rejoint dans 10 minutes.
Apolline Matin,
l'indiscret RMC.
Et les indiscrets RMC, les indiscrets politiques avec Pierrick Bonneau cette semaine. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Vous nous parlez ce matin des reconversions des députés battus en juin dernier, trois mois après avoir quitté l'hémicycle. Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Je vous sens inquiète, Apolline, mais je vous rassure, sur la centaine de députés sortants qui n'ont pas été réélus, très peu sont encore au chômage aujourd'hui. Dernier recrutement en date, celui d'Éric Diard, ancien député LR des Bouches-du-Rhône. Il va devenir début octobre directeur général adjoint de la région Sud. Titre un peu pompeux hein, pour un job de coordination du lundi au vendredi et mieux payé qu'à l'Assemblée, selon l'intéressé. La région Sud, c'est la région de son vieil ami Renaud Muselier qui a pourtant quitté les Républicains avant les régionales pour se rapprocher d'Emmanuel Macron, hein, mais qu'importe. Du côté de la majorité, un certain Bruno Quettel, avocat de formation, vient d'intégrer le barreau de Paris. Quant au LR Julien Aubert, il a retrouvé son fauteuil à la Cour des comptes, son job d'origine, avant, dit-il, de trouver quelque chose de plus rigolo dans le privé. Je vous avais dit, Apolline, pas d'inquiétude.
Et ça leur manque le Palais Bourbon à ses
Pas vraiment, pas vraiment. Je pensais que j'allais regretter, nous dit l'un d'eux. Mais quand je regarde cette espèce d'assemblée où rien ne va se décider pendant 5 ans, je me dis tant mieux, ça me fatigue pour eux. Et puis il y a le travail en circo, hein, en circonscription, qui occupe une grande partie du mandat de chaque député. Et ça ne va pas du tout manquer à cette ancienne élue LR. Franchement, j'étais à 10-15 événements tous les week-ends dans ma circo. C'est usant. L'Assemblée Générale des Moules Frites, j'ai donné.
Exceptionnel. Les témoignages donc des anciens députés avec Pierrick Bonneau. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Bientôt 7h30, place à l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel, le chiffre avec l'inflation galopante. Les prix des péages d'autoroute pourraient bondir de plus de 7 ou 8% le 1er février prochain.
Oui, alors il faut rappeler que l'augmentation des prix des péages, hein, c'est un calcul aussi automatique que compliqué, qui est prévu au début du contrat de la concession. Alors, il y a bien sûr des éléments variables, hein, qui dépendent par exemple des investissements supplémentaires qu'il faut faire, mais retenez ce principe de base, l'augmentation doit atteindre au moins 70% de l'inflation, d'où ces hausses de 7 à 8%.
Et que compte faire le gouvernement alors?
Alors, Clément Beaune, le ministre des Transports, a entamé des discussions avant l'été avec les concessionnaires d'autoroutes parce qu'il sent bien que le dossier est explosif, sauf qu'il y a peu de marge de manœuvre pour négocier. Rappelez-vous quand même 2014, hein, Ségolène Royal qui dit non, il n'y aura pas de hausse des péages en 2015. Elle gèle les tarifs envers et contre tout. Le problème, c'est que le gouvernement devra finalement faire machine arrière. Je rappelle quand même que la directrice de cabinet à l'époque de Madame Royal, c'est Elisabeth Borne, et elle est mieux placée que quiconque pour savoir que finalement l'accord avec les sociétés d'autoroutes, eh bien, a abouti à une augmentation plus forte des prix jusqu'en 2023 pour les automobilistes, et ça leur aura donc coûté plus cher.
Et qu'est-ce qui reste comme solution alors?
Eh ben, miser sur la générosité des concessionnaires d'autoroutes, ça faut pas trop y compter.
Oui, ça j'aime bien cette idée.
On peut aussi croire au Père Noël. Exactement. Oui. Soit on négocie un allongement de la durée des concessions, c'est ce qui s'est fait déjà dans ces cas-là. Soit on baisse les taxes perçues par l'État sur les prix des péages, c'est quand même 30% du prix, mais là, ça revient à faire payer le cocu magnifique qu'est le contribuable. Ou bien on lisse la hausse pour les années à venir, et là, c'est l'automobiliste qui sera gros Jean comme devant, un peu comme en 2015.
On en a eu des expressions, gros Jean comme devant, le cocu magnifique. Et ben, vous savez quoi, toutes ces questions, je les poserai tout à l'heure à Elisabeth Borne. Est-ce qu'elle va essayer de lutter contre cette augmentation des prix du péage? Elisabeth Borne, mon invitée, vous le savez désormais, à 8h15 tout à l'heure sur RMC. Il est 7h25.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Deux manches pirates, le 32-16.
Attention. Il est arrivé dans ce studio. Il pirate le 32-16. Arnaud Demange, bonjour cher Arnaud.
Bonjour, ça va tout le monde?
Ça va très bien. Vous êtes passé au standard, hein, oui. Au 32-16. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la contraception. Je ne savais pas. Oui. Ça fait réagir parce que le gouvernement d'Elisabeth Borne, mon invité ce matin, vient de rendre gratuite la pilule du lendemain.
Oui, et alors on a eu des messages pleins de Ludivine, Marie, Christelle, Séverine, Fatoumata, Louane et Mélanie qui nous disent « Merci Madame Borne pour cette initiative, car nous avons passé la soirée de samedi avec Charles Magnien.
» On les embrasse toutes.
On n'a pas pu résister à son charme.
Oui.
Et d'ailleurs, nos mamans non plus.
Oh.
On s'est bien amusés, mais on ne se voyait pas mère de famille avec un papa qui part bosser à 2h du matin.
C'est vrai.
Quel charmeur,
oh là là.
Ce Charles Magnien. Nous, on était naïfs, on croyait qu'il avait qu'une seule queue de cheval. Et en fait,
Comment tu fais?
Ça attaque dès lundi, hein.
On pense à Madame Magnien, bien sûr, ce matin.
Oui. On a eu un message de Méline de Paris qui nous propose 3 méthodes contraceptives gratuites. 1. Voyager dans un wagon famille Ouigo Marseille-Paris un 25 juillet avec 12 enfants. 2. Passer l'après-midi avec ta belle-sœur chez Ikea avec ses 3 gosses autodiagnostiqués HPI.
Oh ouais.
Ça veut dire hyper putain d'insupportable. Je peux le faire aussi, le diagnostic. Et 3. Mesurer la taille des valises sous les yeux de tes potes qui viennent d'avoir un bébé. Et te dire que toi, t'as les mêmes valises, mais pour partir à Copacabana. Voilà. Et Bruno Le Maire nous a laissé un message.
Elisabeth, si tu m'écoutes, annule cette initiative. Faire moins d'enfants, c'est faire moins de travailleurs qui pourront cotiser pour le système de retraite. J'ai les comptes sous les yeux. Avec ça, tu vas devoir mettre la retraite à 74 ans. Arrête tout.
Bon, eh ben, on va avoir des arbitrages au Conseil des ministres.
Je vais lui poser la question. La retraite à 74 ans, comme Bruno Le Maire. Ah, pardon, non, c'était pas une info, zut. Arnaud Demange, qu'on retrouve tout à l'heure exceptionnellement à 8h10 sur RMC, il est 7h27. Il est 7h30 sur RMC et RMC Story. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La petite forme très inquiétante de l'équipe de France de football battue 2-0 hier soir au Danemark, à 2 mois seulement de la Coupe du Monde. Cette dernière minute, Julien Bayou qui démissionne de ses fonctions de secrétaire national des Verts, lui qui est accusé de violence morale. Et puis l'événement ce matin, Elisabeth Borne, invitée de RMC à 8h15 avant la présentation du projet de loi de finances et du budget de la Sécu.
On est inquiet pour nos Bleus ce matin.
Les Bleus qui ont perdu 2-0 donc hier soir au Danemark et qui nous font un peu peur à 2 mois maintenant de la Coupe du Monde, surtout que c'était le dernier rassemblement des Bleus. Maintenant ça va aller très vite avec des calendriers en plus surchargés. Le décompte ça y est lancé, nous dit Jean Rességuier au commentaire du match hier soir sur RMC.
57 jours avant le premier match des Bleus à Doha contre l'Australie et d'ici là aucun rendez-vous au château de Clairefontaine, aucun match de préparation, les futurs mondialistes vont jouer avec leur club dans leur championnat respectif entre 10 et 15 matchs si l'on rajoute la Ligue des Champions pour la plupart et la Ligue Europa pour les autres. Ils seront observés par Deschamps et son staff avec l'aide des analystes vidéo de l'équipe de France. Le sélectionneur va bien évidemment croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés d'ici le départ pour le Qatar, soit le 15 ou le 16 novembre. Avec la semaine précédente, la fameuse liste des 23, 24, 25 ou 26 joueurs, Deschamps n'a pas tranché. Une liste qui aura les honneurs du 20h de TF1, c'est la tradition. Une Coupe du Monde en hiver avec des températures entre 23 et 30 degrés. Les Bleus auront 5-6 jours pour s'y habituer avant de débuter le tournoi.
Il est 7h32 sur RMC et on apprend donc ce matin la démission de Julien Bayou, secrétaire national des Verts, président du groupe aussi à l'Assemblée. Il l'annonce ce matin dans un communiqué, lui qui est accusé de violence morale par une ex-compagne. L'ancien candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, l'avait appelé dans le week-end à se mettre en retrait pour la sérénité de l'enquête. C'est donc chose faite ce matin, mais il reviendra plus en longueur tout à l'heure dans le journal à 8h sur RMC. L'événement du jour pour l'heure, c'est dans 45 minutes maintenant, Elisabeth Borne, l'invitée de RMC. C'est de vous au 32-16 de 8h15 jusqu'à 9h, la Première ministre qui vient lancer une semaine à risque, on peut dire ça comme ça, pour le gouvernement, avec la présentation des textes très attendus du projet de loi de finances et du budget de la Sécu, avec ou sans réforme des retraites, avec ou sans passage en forme, c'est toute la question. La majorité est divisée sur le sujet, le patron du Modem, François Bayrou, continue d'ailleurs de mettre la pression sur le gouvernement.
On n'est pas aux pièces. Prendre 3 ou 4 mois pour réfléchir ensemble, mettre sur la table des faits et des options et des propositions, moi je pense que ça serait bon, pas seulement pour la paix civile, ça compte, mais pour la réforme elle-même. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas que la question des retraites, il y a la question de la méthode de réforme qu'on peut suivre pour le pays.
Voilà, le 49-3 n'est pas un gros mot, mais le gouvernement doit être à l'écoute. Voilà ce que dit ce matin dans le journal Le Parisien, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, à propos d'un éventuel passage en force, elle qui va diriger donc les débats dans quelques semaines à l'Assemblée. L'extrême droite française salue ce matin la victoire de l'extrême droite aux législatives en Italie. Extrême droite menée là-bas par l'admiratrice de Mussolini, Giorgia Meloni, entre 40 et 45% des voix pour la coalition d'extrême droite, selon les estimations, coalition qui promet des baisses d'impôts, qui promet le blocage des migrants, la priorité aux valeurs chrétiennes également. Première fois, disent les politologues italiens, que l'extrême droite fait un tel score depuis 45 en Europe. Romain Cluzel, en Italie, à Rome précisément pour RMC, nous explique ce que les Italiens attendent désormais.
Cette victoire nette de Fratelli d'Italia, c'est un aboutissement pour les militants de longue date.
Je suis vraiment heureuse.
Rosanna est adhérente du parti depuis 8 ans. Avec Giorgia Meloni au pouvoir, cette traductrice espère un changement dans l'économie italienne.
Le plus que je veux, c'est vraiment ce qu'il a dit d'abaisser les impôts. Pour les entreprises, c'est très difficile parce que les impôts sont très hauts.
Moins d'impôts et une renégociation des accords européens, c'est ce qu'attend Sandro.
C'est une nouvelle ère pour l'Italie, mais surtout une nouvelle ère pour l'Europe. C'est la fin des gouvernements de technocrates. Bon, on verra si le programme sera respecté.
L'exercice du pouvoir, Giorgia Meloni va désormais s'y confronter. Le plus dur commence pour elle, estime Lorenzo Desio, professeur de sciences politiques à la Louis.
Elle aura besoin d'une équipe dirigeante capable de s'occuper des ministères, des relations avec l'administration. Et pour cela, il faut des compétences et de l'expérience. Et ça, c'est certainement le défi le plus complexe pour le parti de Giorgia Meloni.
Et pour former son gouvernement, Giorgia Meloni devra aussi composer avec les autres membres de sa coalition, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi.
C'est le monde entier qui se mobilise pour soutenir la révolution féministe en Iran depuis la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas correctement son voile. Ça, c'était hier. Hier, donc à Paris. Hier après-midi, la police qui a utilisé du gaz lacrymogène pour empêcher des milliers de manifestants qui s'approchaient de l'ambassade iranienne. 5 policiers blessés et 12 interpellations également à Londres où il y avait d'autres manifestations. La reprise du trafic espérée en ce début de semaine à l'aéroport de Montpellier, mais ce n'est pas certain du tout. Aéroport paralysé depuis la sortie de piste d'un avion de fret, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Peut-être à cause de la météo, c'est une piste qui est envisagée. L'appareil de 70 tonnes est déplacé à l'aide d'immenses grues qui ont été installées depuis hier après-midi. Il n'y a pas qu'à la campagne, les villes aussi sont touchées par la disparition des services publics. Même la capitale, 42 bureaux de poste ont fermé depuis 8 ans à Paris. 3 autres sont menacés prochainement, comme celui de la rue Marcadet. C'est dans le 18e arrondissement de Paris. Une réunion est prévue ce matin et Rémi Inks s'y est rendu pour RMC.
La nouvelle s'est très vite répandue dans le quartier.
Les gens, ils ont des besoins déjà. C'est quoi l'intérêt de la fermer ?
Colère, incompréhension des habitants devant cette possible fermeture.
C'est pas une bonne pratique parce que je pense que pour le quartier, c'est important.
Ça sent la fin de quelque chose. La désertification un peu arrive à Paris.
Le but étant de faire des économies par tous les moyens. Ils prennent des décisions qui sont au détriment des gens qui ont besoin de services de proximité.
La Poste explique adapter sa présence au regard notamment de la fréquentation. Et sur cette agence, une baisse de 35% des opérations a été constaté ces 8 dernières années. Barbara Gomez, élue du 18e arrondissement, refuse cet argument.
On n'est pas sur une logique économique. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui ont besoin de ce service. Ce service doit rester.
Autre argument, 60 nouveaux relais commerçants ont été mis en place pour des horaires plus souples. Barbara Gomez.
La Poste se décharge d'une partie de sa mission de service public sur des salariés du privé sans se préoccuper de savoir s'ils vont être correctement formés, s'ils vont être correctement rémunérés et si du coup cette externalisation se passe dans de bonnes conditions.
Des discussions avec la mairie de Paris et celle du 18e arrondissement sont toujours en cours sur cette fermeture.
Et puis je vous signale que les Européens ont perdu la Laver Cup de tennis, victoire du reste du monde 13-8 pour la première fois. D'ailleurs, c'était la 5e édition, édition marquée par les adieux de Roger Federer qui a perdu pour son dernier match, c'était vendredi en double avec l'Espagnol Rafael Nadal.
Et le quintet, Quentin, c'est à Lyon.
13h50 en début d'après-midi sur RMC Découverte. Voici les pronostics de la Dream Team des courses RMC ce matin. Le 16, le 13, le 16, Eliska Berry en favori, le 13, Elan Baroque en outsider.
C'était le journal de Quentin Vinet, 7h37 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
La réforme des retraites, il faut la faire. Voilà ce qu'explique le gouvernement. Mais ce n'est pas du tout votre avis. François Auméril, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans ce studio, vous êtes le président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Pas vraiment habitué aux manifs, mais ça pourrait changer. Vous allez nous le dire dans un instant. Et puis on vous attend au 32-16. Est-ce que vous irez manifester contre cette réforme? Ou alors est-ce qu'il faut la faire, tout simplement, cette réforme des retraites? Charles, ça fait réagir au 32-16.
Hein. Ça fait réagir au 32-16. On surveille aussi vos messages sur Direct Studio. Toutes vos questions à la Première ministre, vous les posez en direct ce matin sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 sur RMC.
L'invité du jour.
C'est donc vous, François Auméril, rebonjour. Vous êtes le patron des cadres, en fait, président de la CFE-CGC. C'est le syndicat de l'encadrement, comme vous dites. Il y a cette réforme des retraites. Emmanuel Macron dit on va la faire. Alors, on ne sait pas très bien s'ils vont la faire un peu en catimini, en la glissant dans le budget dès le mois d'octobre, ou si ce sera fait de manière plus classique par une loi discutée au Parlement à la rentrée après janvier. Mais enfin, quoi qu'il arrive, ils disent qu'ils la feront. Et pour la première fois, vous, les cadres, vous voulez vous mobiliser contre?
Bah, je ne sais pas si c'est la première fois. Déjà, nous étions assez opposés à la réforme systémique qui nous a été proposée au début de l'année 2020. Mais effectivement, on est défavorable à ce type de réforme et notamment au décalage de l'âge légal de la retraite de 62 à 65 ans.
Et pourquoi?
Bah, parce que rien ne justifie de le faire aujourd'hui. Moi, souvent, je rappelle, et notamment je l'ai fait il y a 2 semaines au ministre Dussopt, je lui ai dit, mais écoutez, je pense que notre parole est assez crédible parce que nous, à la CFE-CGC, nous avons accompagné les dernières réformes, les 4 réformes très importantes qu'il y a eu depuis 30 ans pour justement pouvoir sauvegarder le régime par répartition. Or là, aujourd'hui, ça n'est pas nécessaire.
C'est la réforme de trop.
C'est vraiment la réforme de trop et surtout, c'est la réforme qui vient attaquer les salariés, qui vient attaquer les futurs retraités pour pouvoir leur prendre de l'argent, finalement, pour financer d'autres projets qui n'ont rien à voir avec l'équilibre des comptes s'agissant des régimes de retraite.
Parce qu'en effet, la nouvelle justification, et pour le coup, je ne crois pas que ça a été vraiment dans le vocabulaire affiché du chef de l'État ou de la Première ministre, la nouvelle justification désormais, c'est de dire si on ne fait pas cette réforme des retraites, si on ne repousse pas l'âge de départ à la retraite, ben on ne pourra pas financer les hôpitaux, en gros.
Oui, c'est exactement ça. D'une certaine façon, on ne peut pas leur reprocher d'avoir menti, au moins sur la justification. Mais ça ne rend pas le projet acceptable en tant que tel. Nous, on considère que le régime de retraite par répartition, c'est un régime autoporté, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher de l'argent dans ces différents régimes, que ce soit sur les équilibres ou sur les réserves, pour financer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la retraite.
La retraite, c'est des cotisations qui servent à payer les retraites, quoi. Point barre, en fait. C'est pas pour vous une manne sur laquelle il faudrait aller puiser pour d'autres projets. Alors, ce que dit le gouvernement, c'est que ils ont besoin, en gros, ça rapporterait à peu près 10 milliards cette réforme, de repousser donc de 2 ans l'âge de départ. S'ils ne repoussent pas et qu'ils n'ont pas donc ces 10 milliards, ils iront les chercher ailleurs et notamment avec des hausses d'impôts.
Ça dépend de qui on va augmenter les impôts. Moi, j'observe que l'année dernière, il a été distribué 70 milliards de dividendes dans les grandes entreprises du CAC 40, qui par ailleurs ont racheté des actions, ce qui est de la destruction de valeur. Alors moi, j'aimerais bien savoir quel est le problème aujourd'hui sur le partage de la valeur. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'aller d'une certaine façon rechercher de l'argent, puisqu'il en a besoin, puisqu'il a besoin de dégager des marges de manœuvre budgétaires. C'est la phrase dans la novlangue aujourd'hui. Eh bien, il y a quand même sur l'ensemble des dispositifs qui créent de la valeur en France et qui, d'une certaine façon, en reprennent une partie. Il y a, je pense, d'autres endroits que les seuls salariés pour mettre à contribution.
Ce que je trouve assez intéressant et passionnant aussi dans votre point de vue, c'est que depuis 2-3 jours, régulièrement, ici, et Charles en est témoin, on a posé la question des retraites à tous ceux qui nous écoutaient. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont un travail très pénible et qui disent, nous, la pénibilité va pas être suffisamment prise en compte, on a commencé à travailler très jeune, on travaille dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pas vous faire insulte que de dire que les cadres ne sont pas forcément dans cette situation-là. Et pourtant, vous êtes opposés, vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de solidarité là, de tous les salariés, qu'ils soient à quelques niveaux de l'entreprise que ce soit, pour dire non, en fait, il n'y a pas de raison qu'on bosse plus longtemps.
Bah non, puis en plus, c'est quand même une attaque assez systémique au régime de retraite par répartition et en son principe, justement, vous l'avez rappelé, de cotisation des actifs vers ceux qui sont aujourd'hui en retraite. Vous savez, les salariés, ils ont déjà beaucoup payé pour sauvegarder leur système. Aujourd'hui, en tendance, et dans les 20 années qui vont suivre, le niveau de revenu des retraités va baisser d'à peu près 20%. Et ça, c'est la conséquence des réformes déjà passées, les réformes que nous avons voulu, justement, pour sauvegarder ce régime. Et donc, je trouve quand même assez mal placé le gouvernement pour venir dire, bah, finalement, votre régime, il est assez bien géré, il y a encore aujourd'hui beaucoup de réserves, et bien, je vais aller ponctionner dedans pour pouvoir financer mes projets. Bah, je suis désolé, non, c'est pas acceptable.
Ça n'est pas acceptable, et voilà votre parti pris ce matin. François Auméril, vous êtes donc le président du syndicat des cadres, la CFE-CGC, et on le comprend bien, pour vous, c'est tout simplement la réforme de trop. Bah, je porterai cette question, évidemment, tout à l'heure auprès d'Elisabeth Borne, qui sera mon invité à 8h15. Est-ce qu'il faut réformer le système des retraites? Est-ce qu'il y a urgence? Si j'en crois votre point de vue, en tout cas François Auméril, il n'y a donc pas urgence. Il est 7h46. Vous aussi au 32-16, vous nous appelez pour interpeller la Première Ministre. Olivier est avec nous depuis le Finistère. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Olivier, vous nous avez appelé ce matin plutôt en tant que père de famille, c'est bien ça? Vous avez une question pour la Première Ministre?
Oui, tout à fait. En fait, je voudrais savoir ce qui va être prévu pour les étudiants, pour les aider avec l'augmentation du coût de la vie, que ce soit l'alimentation, les énergies, les montants des loyers, etc. En fait, voir qu'est-ce qui va être proposé pour les aider aujourd'hui.
Vous avez 2 enfants qui sont étudiants, c'est ça, Olivier?
Oui, tout à fait, oui. Ouais.
Et c'est quoi leur situation? Vous les aidez le plus possible, mais vous sentez bien que c'est compliqué?
J'en ai un qui est parti du cours en études sur Nantes, donc il a fallu trouver un logement. Et donc forcément, ça occasionne des frais supplémentaires. Et en fait, moi, dans ma position, je suis dans la classe moyenne. Donc en fait, j'ai le droit à quasiment aucune aide. Donc mon fils n'en bénéficie non plus. Et au final, moi, mon salaire n'augmente pas. Mais pour autant, il faut que j'aide mon fils aussi pour qu'il puisse subvenir à ses besoins et qu'il puisse continuer à faire ses études. Donc aujourd'hui, on arrive dans une situation qui est un peu compliquée et qui va ne pas s'arranger.
Et ne pas s'arranger, en effet, avec donc 2 enfants étudiants. C'est intéressant ce que vous dites, Olivier, parce que c'est toujours cette question de est-ce qu'on est juste au-dessus des aides? Et dans ces cas-là, bah oui, si le coût de la vie pour votre fils, dans un sens, j'ai envie de dire, il n'y est pour rien que vous soyez plus modeste ou plus confortable dans la vie. Et c'est toujours la difficulté aussi vis-à-vis des étudiants. Donc, votre question, Olivier, à la Première Ministre, qu'allez-vous faire pour les étudiants face à la hausse de l'énergie et à la hausse des prix de l'alimentation? Merci, Olivier. Comme Olivier, vous nous appelez au 3216. vos témoignages, vos questions. Je les porte tout à l'heure à la Première Ministre. Et puis vous nous appellerez pendant l'interview au 32-16 pour pouvoir l'interpeller le plus directement possible. Il est 7h48.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Nicolas Poincaré. L'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, vient de choisir le chef de gouvernement le plus à droite depuis le dictateur Benito Mussolini. Giorgia Meloni devrait être nommée première ministre. Quelles conséquences pour l'Italie? Les explications de Nicolas Poincaré, c'est dans un instant.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus, Charles.
À votre avis, Apolline, quel est le point commun entre Zlatan Ibrahimovic, la chanteuse Angèle, et Pierre Richard?
Voilà.
Ouais, elle est dure celle-là. Eh bien, ils jouent tous dans le prochain volet des aventures d'Astérix au cinéma. Et oui, une première bande-annonce a été mise en ligne hier pour cet Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, film très attendu, réalisé par Guillaume Canet. Alors, contrairement au précédent film, celui-ci n'est pas inspiré d'une des BD d'Astérix. L'histoire se déroule en Chine, a été imaginée, écrite par les auteurs des Tuches. Guillaume Canet va non seulement réaliser, mais aussi incarner Astérix. À ses côtés, c'est Gilles Lelouch qui endossera le costume d'Obélix. On verra aussi Vincent Cassel en Jules César.
Je vais devenir le nouvel empereur de Chine.
Mais ça suffit cette histoire!
Les Gogos, les Gaulois, sorti en salle le 1er février 2023 pour ce casting de stars.
Bonne nuit, monsieur, je sais tout.
Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain.
Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. C'est bon les légumes, c'est bon.
RMC, Apolline Matin.
7h51, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. En Italie, la coalition des droites a largement remporté les élections législatives hier. Et donc, c'est une femme d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui pourrait devenir présidente du Conseil.
Eh oui, théoriquement, oui. Giorgia Meloni s'est largement imposée dans la soirée. Elle s'est présentée sur scène au siège de son parti avec une grande pancarte disant « Merci l'Italie ». L'alliance des trois partis de droite et d'extrême droite obtient entre 40 et 44% des voix. Le parti qu'elle-même a fondé, Fratelli d'Italia, est désormais le premier parti d'Italie avec entre 22 et 26% des suffrages. En termes de sièges, cette coalition remporte une très large majorité à l'Assemblée et au Sénat. La logique, effectivement, voudrait donc que Giorgia Meloni devienne la prochaine première ministre.
Elle serait la première femme à diriger l'Italie.
Oui, première femme à diriger un grand pays européen latin, mais l'Italie serait aussi et surtout le premier des grands pays fondateurs de l'Europe dirigé par l'extrême droite, ce qui naturellement marque une nouvelle percée des populistes et des nationalistes en Europe après la réélection triomphale de Viktor Orban en Hongrie et après la victoire en Suède d'une coalition soutenue par l'extrême droite. Giorgia Meloni préside un parti qu'elle a fondé et que les commentateurs italiens qualifient de post-fasciste, c'est-à-dire un parti qui a été créé avec des héritiers de Mussolini mais qui a su récemment se démarquer de la droite la plus radicale. Sa devise, c'est Dieu, patrie, famille. Giorgia Meloni a promis de protéger les familles contre le lobby LGBT et de protéger l'Italie contre l'islamisation. Les questions d'immigration étaient au cœur de sa campagne.
Et qu'est-ce qui a fait le succès de Giorgia Meloni?
Alors ça s'est sans doute fait en deux temps. D'abord, il y a eu la création de cette alliance de trois partis, condition indispensable pour pouvoir espérer gagner. Ces trois partis sont donc les Frères d'Italie de Giorgia Meloni, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia, le parti de l'insubmersible Silvio Berlusconi, 86 ans. C'est un peu, et même beaucoup, comme si en France, on avait eu aux législatives une alliance du Rassemblement National, de Reconquête d'Éric Zemmour et des Républicains. Et puis ce qui s'est passé dans un deuxième temps, c'est qu'au sein de cette alliance, c'est Giorgia Meloni qui s'est imposée, parce qu'elle a fait une bonne campagne, parce qu'elle s'est dédiabolisée, qu'elle a mis de l'eau dans son vin, mais aussi parce que ses partenaires se sont effondrés. Matteo Salvini a été rattrapé par son amitié avec Poutine et par des soupçons de financement de son parti par les Russes. Quant à Berlusconi, il a fait du Berlusconi. Il a plaisanté sur son succès auprès des femmes et sur son goût pour les très jeunes femmes, alors que ça fait maintenant quelques années que ces pitreries ne font plus rire les Italiens. Résultat, Forza Italia a fait moins de 8% des voix, la Ligue de Matteo Salvini à peine plus de 8% et Giorgia Meloni beaucoup plus que ses deux partenaires réunis. C'est donc une victoire par chaos.
Qu'est-ce qu'il attend désormais?
Alors, elle va devoir d'abord faire ses preuves parce qu'elle n'a qu'une très petite expérience de gouvernement. Elle n'a été que brièvement ministre de la Jeunesse. Elle va devoir essayer de durer, ce qui sera difficile avec ses deux partenaires, Berlusconi et Salvini, qui l'attendent au tournant. Elle va sans doute donner des gages à ses électeurs en prenant des premières mesures
contre l'immigration et pour la natalité et pour les familles. Et puis, elle va devoir gérer une situation économique difficile. L'Italie a la dette la plus importante d'Europe après la Grèce. Et c'est pour cela qu'il va falloir qu'elle compose avec l'Europe. Elle ne peut pas se passer du plan d'aide de Bruxelles et du milliard de plans de relance. La semaine dernière, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, avait laissé entendre qu'elle allait en quelque sorte surveiller l'Italie et qu'en cas de manquement à l'état de droit, eh bien l'Europe dispose d'instruments, une forme d'ingérence qui a été très très mal vécue en Italie. En tout cas, les Italiens ont répondu, ils ont voté hier pour l'extrême droite. Ils ont voté pour l'extrême droite plus qu'aucun pays européen ne l'avait jamais fait depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Et les explications de Nicolas Poincaré. Il est 7h55. Vous restez avec nous dans un instant. La météo et le journal et à la une du journal de 8h. Julien Bayou qui démissionne.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.